Bonsoir et merci à tous d'être venus et grand merci à Radio Saint-Afrique pour l'enregistrement de cette soirée. Ce soir, nous vous avons invité à notre troisième rencontre sur le thème de la démocrature. Aujourd'hui, nous laissons la parole à Sophie Mazas, avocat, présidente de la Ligue des droits de l'homme de l'Hérault et depuis 4 jours élue au comité national de la LDH. Infatigable défenseur des principes fondamentaux. Au tribunal administratif pour plaider le droit de séjour d'un sans-papier, sur la place de la Comédie pour un rassemblement de soutien à la Palestine, dans une manifestation auprès de la population kurde, devant la préfecture pour protester contre le manque d'hébergement pour les familles de demandeurs d'asile, devant le palais de justice pour défendre l'accès à l'aide juridictionnelle pour les plus démunis, à la barre encore pour attaquer au nom de la Ligue des droits de l'homme les décisions du maire de Béziers, Robert Ménard, Sophie Mazas est sur tous les fronts, toujours centrée sur une cause, la défense de la dignité humaine. Avec ou sans robe noire, Sophie Mazas est inlassablement l'avocate de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme « Tous les hommes naissent libres et égaux ». Concernant la défense des droits fondamentaux, son travail ne s'arrête jamais. Aujourd'hui, nombre de ces droits sont attaqués par la Macronie en écho aux thèses de l'extrême droite. Cela induit une menace des libertés et une fragilisation de la cohésion sociale. Mille merci Sophie d'avoir pris du temps sur ton week-end pour venir ici, ce soir encore, dénoncer le fonctionnement de l'extrême droite à l'épreuve du réel. Nous te laissons la parole. Ensuite, nous pourrons échanger et débattre. Mais peut-être que pour commencer, tu pourrais définir l'état de droit, puisqu'on n'est pas forcément tous sur le même plan de la compréhension. Voilà, merci à toi.
Merci beaucoup pour l'invitation. Et voilà, moi, avant de parler d'état de droit, je vais me permettre juste de me présenter. Comme ça, on va savoir à peu près. Ici, je suis en Aveyron, donc bon, voilà, je considère en fait que je suis venue voir des camarades. Moi, je suis d'Agde, donc pas très loin de Béziers. Et voilà, j'ai eu la chance de grandir dans un environnement à peu près bien, à un moment où la société, en tout cas pas dans les grandes villes, parce qu'à ce moment-là, il y avait déjà des difficultés, mais où la société allait à peu près bien pour nous, où le système éducatif était à peu près correct et où voilà, les conditions étaient bonnes. Et donc, pour moi, c'est normal, en ayant pu accéder aux études supérieures. J'ai donc fait mes études à la faculté de droit de Montpellier et j'ai étudié les droits fondamentaux. C'est normal de partager en fait cette connaissance de manière pratique et concrète sur le terrain. Aujourd'hui, ce soir, je vais intervenir un peu sur la manière dont, on va dire, les gouvernements de Macron, qui sont des gouvernements, alors soit néolibéraux, soit ortholibéraux, c'est-à-dire qui utilisent la loi au profit, en fait, du développement capitaliste et des sociétés capitalistiques, comment, en fait, l'interaction se fait avec l'extrême droite. Dire quelque chose, c'est peut-être mal. Ouais. C'est-à-dire la question du barrage qui a été. Enfin, Macron nous a dit qu'il était là pour faire barrage. Je ne comprends même pas 2 secondes comment on a pu penser que c'était possible, en fait. Voilà. Je vais peut-être faire en introduction 2 choses. L'état de droit et l'extrême droite. Des fois, je suis un peu surprise quand j'entends des gens dire que « Ah non, on ne peut pas dire que l'extrême droite, elle est issue de la société capitaliste, ça existait bien avant. » Alors, c'est-à-dire que bien avant, il y a eu la Révolution, hein, donc c'était la féodalité, donc déjà, c'était pas trop ça. Ensuite, effectivement, il y a eu la Révolution industrielle, et sur la Révolution industrielle, ben, il y a eu en fait des mécanismes d'exploitation qui se sont développés un peu plus, et à l'issue de ce développement, ben, on a eu quand même un développement des empires, et puis comme ben, dans les empires, on pouvait pas, il y avait déjà certains États européens qui les avaient pris, ben, on a d'autres États européens qui ont voulu aussi se les accaparer, et on a quand même eu la Première Guerre mondiale. et on a quand même vendu aux paysans et aux prolétaires le fait de faire un effort pour sortir les pays de la guerre et faire l'effort de guerre en leur promettant une amélioration de leurs conditions de travail et in fine, et ça commence en Italie, d'amélioration des conditions de travail il n'y en a pas et les syndicats commencent à être mis à mal et à subir la violence des groupuscules fascistes. Donc effectivement la logique de l'extrême droite naît quand même directement, on va dire, d'une pratique libérale non encadrée en tout cas, et sur en fait une économie en fait qui va au bout de dire l'économie de guerre, ou une économie qui a fini en fait son cycle le plus capitaliste. Donc on a quand même un lien entre la question de l'économie libérale et des pensées d'extrême droite. Mais en parallèle, à peu près à la même époque, il y a tout un débat qui se fait chez les juristes sur la question de l'état de droit. Parce que, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789, on nous parle de la séparation des pouvoirs. Et donc, en fait, le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Et les citoyens ont des droits. Donc, on fait valoir nos droits devant les juridictions. Mais il y avait quand même une grande question. C'est qu'est-ce qu'on fait quand c'est l'État qui fait quelque chose qui ne va pas ? Et donc, à la fin du XIXe siècle, il y a les premières lois et les premières décisions du Conseil d'État qui engagent la responsabilité de l'État pour avoir soit causé un dommage important, soit, et on commence aussi, et c'est la juridiction administrative, on commence à annuler les décisions de l'État qui ne sont pas conformes au droit. Ça veut dire qu'on soumet, on met en fait l'État un peu au même niveau que le citoyen. Il doit respecter la loi et il doit rendre des comptes. C'est un petit début, on va dire, d'un encadrement du pouvoir de l'État. Parce que dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il y a un droit qui est très important, c'est le droit à la sûreté, qui est un droit qui est un peu en filigrane. On va dire que ce n'est pas le droit qui est le plus apprécié de nos jours. On rappellera que le droit à la sûreté, c'est pas le droit à la sécurité, hein, c'est le droit à la sûreté, c'est le droit à la protection contre les pratiques arbitraires de l'État. Et donc le fait d'avoir une juridiction administrative, ça commence à limiter un petit peu le pouvoir de l'État. Il y a une grande décision en 1930, c'est l'arrêt Benjamin, qui est une décision qui dit que les mesures de police administrative doivent être proportionnées. L'État n'a pas tous les droits, il peut pas interdire par exemple un meeting, juste parce qu'il en a envie. Il peut interdire un meeting si ce meeting génère des troubles et crée des risques, par exemple, sur la voie publique. Donc, en fait, on commence à encadrer le pouvoir de l'État. Mais la question, c'est qui contrôle les pratiques, soit de l'État, soit des collectivités, par rapport à la Constitution ? Et en 1936, le Conseil d'État se positionne en disant « Ce n'est pas moi qui vais contrôler ça. » La Constitution, elle est donc tout en haut de ce que Kelsen, à la même période, au début du XXe siècle, commence à penser. Ça s'appelle la pyramide de Kelsen, c'est très important dans l'état de droit. C'est le fait que toutes les normes, de la plus petite à la plus haute sur la pyramide, doivent respecter celles du dessus. Donc un arrêté ou un décret doit respecter la loi, qui doit respecter la loi organique. La loi organique, c'est celle qui organise les institutions, et qui doivent respecter la Constitution. Et dans la Constitution, vous avez deux grandes parties, les droits fondamentaux, liberté d'expression, liberté de réunion, etc., et le fonctionnement des institutions. Et donc, en 1936, le Conseil d'État dit « Moi, je ne regarde pas si les textes qu'on me soumet ou les décisions qu'on me soumet respectent la Constitution, ce n'est pas mon travail. » Et donc Kelsen et d'autres juristes à côté, notamment en Allemagne, développent en fait l'idée de l'état de droit, Rechtsstaat, et c'est l'idée que tout le monde est soumis à la pyramide des normes, que ce soit le citoyen, que ce soit le maire d'une ville, le député, tout le monde y est soumis. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un juge qui juge au regard de la Constitution. Et donc il dit, ben, en bas il y a le juge judiciaire, on peut faire appel, on peut aller en cassation, voilà, on contrôle à ce niveau-là. Mais en haut, qui va contrôler ? Et donc c'est là où naît l'idée d'un juge constitutionnel qui va vérifier que les lois sont conformes à la Constitution et que les droits fondamentaux sont respectés. Et ça, ça s'applique à tout le monde. Cette théorie de l'état de droit, qui est aussi très liée à la question de la dignité de la personne humaine, qui est développée par Kant, parce que ça veut dire que tous les êtres humains ont des droits de manière intrinsèque et que donc on ne peut pas écarter ces droits parce qu'il y aurait l'État qui serait supérieur, etc. Pour nous, à la Ligue, vous comprenez, donc moi je suis à la Ligue des droits de l'homme, hein, donc vous comprenez qu'on s'est créé, nous, sur l'affaire Dreyfus, et donc sur la lutte contre l'arbitraire et la lutte contre le droit à la sûreté. Donc c'est, pour nous, c'est assez central. Mais en parallèle de toutes ces théories, la théorie qui prévalait au début du XXe siècle, c'était la théorie de la souveraineté populaire. C'est parce que vous avez deux légitimités qui s'affrontent. La souveraineté populaire, c'est une légitimité qui dit que ce qu'on vote, c'est légitime parce qu'on a tous contribué à savoir ce qu'on allait mettre en place, on l'a voté, on l'a décidé collectivement, et donc ça donne une force à la loi ou au texte de loi qui est voté. Si c'est une constitution, en général, il y a la majorité des deux tiers, il y a un formalisme particulier avec deux chambres qui statuent en même temps dans une assemblée constituante. L'autre théorie, qui est celle qui va avec l'état de droit, elle dit qu'il y a une limite à la souveraineté populaire. Et la limite à la souveraineté populaire, ce sont les droits fondamentaux. C'est-à-dire, même si deux tiers des personnes votent dans une constitution, même si dans une loi, 51% des citoyens votent dans un texte de loi, qu'il n'y a pas d'égalité entre les êtres humains, que les femmes ne sont pas les égales des hommes, c'est pas possible. Parce qu'on a un droit fondamental, c'est le principe d'égalité, et ce principe il dit que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Alors on est d'accord, c'est un objectif, pas facile tous les jours. Enfin bon, c'est quand même vers ça qu'on doit tendre. Et donc ces deux théories, elles s'affrontent. Et finalement, lorsque il y a toute la théorie de Kelsen et de sa pyramide des normes qui arrive et qui gagne, on va dire, les pensées, c'est celle donc des droits fondamentaux qui prévaut. Et on a, alors non pas après-guerre, mais en 1958, on a pour la première fois une constitution qui prévoit un juge constitutionnel en France. Ce juge constitutionnel, au début, il devait dire est-ce que le texte de loi, c'est article 37 ou 34 de la Constitution, à savoir est-ce que c'est un texte de loi ou est-ce que c'est un décret. Et puis, finalement, il va regarder ce que font les autres, la Cour constitutionnelle allemande, où là, il contrôle les droits fondamentaux, et il va s'émanciper de cette contrainte en disant, ben voilà, moi je vais contrôler aussi par rapport à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen que j'intègre dans le bloc de constitutionnalité. Et puis après, il va intégrer aussi le préambule de 1946, avec les droits économiques et sociaux. Et ensuite, on va prévoir que on va élargir la saisine du Conseil constitutionnel. Parce qu'à la base, il n'y avait que le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le président de la République qui pouvaient les saisir. Et là, on va élargir à 60 députés ou sénateurs qui peuvent saisir le Conseil constitutionnel pour voir si une loi est conforme ou pas à la Constitution. Et là, ça va être, on va dire, une explosion de recours. Et on va avoir toutes les grandes années de jurisprudence dans les années 80, avec Badinter notamment, et toute la grande période de découverte des droits fondamentaux où, en fait, on va vraiment penser les droits fondamentaux comme protecteurs ça se développe et c'est vrai qu'on va avoir un coup d'arrêt qui va se passer, mais qui est un coup d'arrêt politique. Alors on a la QPC qui se met en place aussi plus récemment, la question prioritaire de constitutionnalité qui existe depuis longtemps en Allemagne, qui est que dans un procès, si moi à l'occasion d'un procès on se rend compte en appliquant le droit qu'il y a la violation d'un principe constitutionnel, je peux demander au juge de saisir le Conseil constitutionnel. Là aussi, ça a amené beaucoup de décisions intéressantes. Mais il y a vraiment un gros coup de frein depuis... on le marque souvent avec les attentats à New York, mais effectivement, il y a depuis 20 ans une phase de déclin des droits fondamentaux. Et je vais en parler un peu plus loin, mais aujourd'hui, voilà, le Conseil constitutionnel se positionne à minima et on a un peu l'impression qu'il laisse passer pas mal de choses pour sauver les meubles sur toute une autre partie en fait, d'atteinte aux droits fondamentaux qui sont extrêmement importantes. Voilà, par exemple, pour donner le niveau où on en est, c'est quand même incroyable, il y a 6 mois, 9 mois, le Conseil constitutionnel a censuré une disposition qui visait à permettre à la police de déclencher l'écoute de vos téléphones portables à distance pendant 6 mois sans vous en informer dans le cadre d'une enquête. Non, c'est quand même une grosse atteinte à la vie privée familiale. Donc là, censure. Mais on va voir que pour pouvoir faire, on va dire, pour pouvoir continuer à censurer ce qui est le plus gros, alors je ne sais pas si c'est une stratégie ou je ne sais pas si c'est un effet naturel de ce qui se passe, on voit quand même que le Conseil constitutionnel laisse passer beaucoup de choses. Donc voilà, pour introduire un peu le sujet, l'état de droit, ce qu'on appelle l'état de droit, c'est le fait de disposer de droits fondamentaux et de la séparation des pouvoirs, puisque la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen nous dit que toute constitution qui n'a point de séparation des, toute société qui n'a point de séparation de pouvoirs n'a point de constitution. Voilà. Donc l'état de droit, c'est des droits fondamentaux, la séparation des pouvoirs, qui sont garantis par la soumission de tous, citoyens et structures de l'État, aux mêmes lois. Jusqu'en haut de la pyramide, avec en haut les droits fondamentaux. Donc voilà un petit peu pour introduire le sujet. Donc ça, c'est de là où on partait. On espérait être dans un état de droit. Et voilà, alors là, force est de constater que ça commence à devenir un peu compliqué. Les Gilets jaunes, ça a été une grosse... je pense qu'elle a été une grosse prise de conscience pour beaucoup. Mais l'état d'urgence, je crois que c'était en 2005. Moi, je venais d'arriver comme jeune avocate... État d'urgence, on n'avait pas vu ça depuis 1955. Qu'est-ce qui se passe ? C'était assez incroyable. Et c'était, par contre, effectivement dans les zones, dans les banlieues. Donc, en fait, finalement, on me disait, non, mais c'est pas que c'est pas la France, mais c'est pas grave, c'est restreint, c'est circonscrit. Non, c'était... Mais même avant ça, moi, je vais remonter plus loin. Je pense qu'on a eu plusieurs vagues de lois qui portaient atteinte à nos libertés. Je pense que Jean-Jacques Gandini a dû vous parler précédemment, notamment de toutes les lois sur le fichage. Hein, on nous dit toujours au début, on va ficher les gens, c'est contre les pédophiles et les criminels. Puis au final, aujourd'hui, le TAJ, traitement des antécédents judiciaires, vous pouvez être dedans parce que vous êtes condamné, parce que vous avez été victime, parce que vous avez été contrôlé, et pour tout motif pour lequel la police juge légitime de vous mettre dans le TAJ. Résultat, 19 millions de personnes. C'est quand même incroyable. Donc c'est vrai qu'on voit que toutes les mesures en fait, comme ça, de fichage liberticide, elles montent crescendo. Mais on a un premier texte, c'est en 2001, c'est la loi sécurité intérieure, portée par un gouvernement socialiste, et qui va écrire, et là je pense que c'est le doigt dans une confusion qui aujourd'hui fait qu'il y a une grosse difficulté intellectuelle pour toute une partie de la gauche à combattre les idées de l'extrême droite, c'est qu'il manque un peu des repères. Et en 2001, donc le gouvernement socialiste fait voter une loi qui dit que la sécurité est un droit fondamental. Alors là, la sécurité est un droit fondamental. En fait, si on vit ensemble, ça peut bien se passer, mais des fois, il y a des problèmes. Et quand il y a des problèmes, on a la justice, c'est carrément... un des trois pouvoirs. Donc c'est déjà organisé. C'est pas un droit fondamental, c'est juste c'est la vie, quoi. C'est voilà, on sort, des fois ça se passe bien, des fois ça se passe mal, bon voilà. Ce qui est un droit fondamental, c'est le droit à la sûreté, parce que c'est le droit à la sûreté contre l'État. C'est les lettres de cachet, c'est l'embastillement. Les lettres de cachet, c'est ça, le droit à la sûreté. Et donc, en faisant cette confusion, on va placer la sécurité, c'est-à-dire comme un droit fondamental, donc en fait, c'est le droit... de ne pas être atteint dans ses biens ou dans sa personne. Et donc, en fait, on vit dans une société où on pense vraiment, dès qu'on sort, la principale préoccupation, c'est celle-là. Donc, en fait, on va désaxer complètement en fait, le positionnement de ce qui est la justice ou les mesures de police. Alors, il y a eu plusieurs dégradations. Et on est arrivé, alors bon, Chirac... Faudrait-il que Chirac, quand il passe, bon, il passe. Et puis après, on a une dégradation. Et on en arrive effectivement aujourd'hui à un gouvernement, alors moi que je dirais ortholibéral, ou en tout cas plus que néolibéral, c'est-à-dire que au-delà du fait de pousser en fait la concurrence et la fragmentation de la société à son maximum pour le maximum de profit pour ceux qui détiennent en fait enfin, le capital, les sociétés et les moyens de production, ils vont utiliser la loi. C'est pas déréguler, c'est pas faire moins de lois, c'est faire des lois pour augmenter le profit. Enfin, je veux dire, c'est encore pire. Donc ils sont dans cette logique. Et ils mettent en face l'extrême droite comme seul interlocuteur. Et en fait, il y a une danse macabre. Et elle va jouer sur... Il va y avoir une double dynamique. Il y a la dynamique de l'atteinte aux droits fondamentaux dont on parlait tout à l'heure, que tout le monde doit constater, enfin qu'on peut constater. Je vais en lister quelques-unes, mais je pense qu'on l'a vu. Et il y a une autre dynamique qui est moins visible, parce qu'il faut s'intéresser un peu à la structure, et c'est l'atteinte à nos institutions. Et là, en ce moment, on commence à arriver sur un moment qui est un peu bascule. Sur l'atteinte sur le fond du droit, il y a eu un exemple là sur la loi immigration qui est passée en janvier, c'était incroyable. C'était incroyable parce que les députés, alors, ils commencent à poser le texte en accéléré, version accélérée, c'est-à-dire qu'un texte de loi, normalement, il fait Assemblée nationale, Sénat, Assemblée nationale, Sénat, et après on se met d'accord. Là, il fait, non, on fait accélérer. Alors, maintenant, tout est accéléré, hein, c'est la société de la vitesse. On ne fait plus qu'un aller-retour. On ne fait qu'une lecture pour l'un et une lecture pour l'autre. Sauf qu'entre les deux, ils ont rajouté 40 articles qui n'ont pas été vus par le Sénat, qui avait vu le texte en premier. Donc déjà... ça veut dire que quand même, il y avait un tiers de la loi qui n'avait pas été vue par le Sénat, donc c'est un peu moyen. Mais dans le contenu de la loi, alors il y a eu un durcissement. Et en droit des étrangers, il y a une loi tous les 18 mois, et chaque fois ça se durcit. Donc on le sait, ça se dégrade, on est au courant. Mais là, il y a des caps qui ont été franchis. On ne pourra plus dire, on ne pourra plus militer contre une loi... contre les sans-papiers ou en disant que la loi immigration, c'est une loi contre les étrangers. Parce que maintenant, c'est une loi contre les Français. Dans cette loi, ils avaient prévu que les Français, pour faire venir en France leur conjoint étranger, devaient quasiment remplir les mêmes conditions qu'un étranger qui fait un regroupement familial. Revenu, logement, emploi. Donc, dans la loi, il a été indiqué que ben, ceux qui possèdent le plus pourraient faire venir leur conjoint étranger, mais que finalement, les pauvres, hein, on va dire au bout d'un moment, les gens qui n'ont pas les moyens, les classes populaires, on peut me donner toutes les dénominations qu'on veut, les gens qui n'ont pas assez d'argent ne pouvaient plus faire venir leur conjoint étranger. La question, en fait, il ne faut jamais l'oublier, la question en fait, de la domination du plus faible, la domination du plus pauvre, et de la segmentation de la société en groupes qu'on essentialise, les hommes qui dominent, c'est le but à hein, l'extrême droite, les femmes, les homos, les étrangers, cette segmentation de la société et ce mécanisme de domination, et moi j'appelle même maintenant ça de la prédation, c'est une des caractéristiques de l'extrême droite. Et pour la première fois, on a un texte porté par la droite démocrate, démocratique, je ne sais pas comment dire, républicaine, prônait un contenu intrinsèquement d'extrême droite. Pour la première fois aussi, on avait une loi qui mélangeait asile et séjour. Parce qu'il y avait toujours une différence. On a toujours fait des lois distinctes pour gérer le séjour et pour gérer l'asile. Parce que l'asile, c'est vraiment le texte emblématique, c'est vraiment la Convention de Genève, c'est vraiment non, on ne refera plus jamais ça, non, on ne laissera pas, hein, vous savez l'histoire du Saint-Louis, ce bateau qui est parti avec juste certains qui avaient des visas et qu'on a renvoyé, hein, qu'on a renvoyé en Allemagne alors qu'ils étaient arrivés jusqu'à New York. Bon. Donc, pour la première fois, on a un texte qui est mixte. Pour la première fois, on a un texte qui limite en fait, la vie privée familiale des Français sur des critères économiques. Alors, bien entendu, vous avez entendu parler de la suppression de l'aide médicale d'État, voilà, donc pour les étrangers. Donc, il y avait des mesures un peu qui faisaient un peu chiffon rouge, vous voyez, on a un peu l'habitude. Les premiers combats que j'ai menés avec les gens de Sainte-Afrique, c'était Bas-Élèves. Et alors, au début, Bas-Élèves, ils avaient dit non, mais on va faire un fichage ethnique, truc, machin. Bon, ils ont retiré ça, puis ils ont laissé tout le reste. Et en termes de fichage, c'est bien gratiné. Donc, il y a tout ce qui était comme voilà, les chiffons rouges qu'ils ont agités. Mais donc, en fait, on a un texte qui était vraiment tellement attentatoire aux droits fondamentaux. Les étudiants qui devaient laisser une caution en arrivant. Donc, on atteignait l'universalisme de la faculté. Il y avait vraiment de partout. Que même ceux qui l'ont voté ont dit « Non, mais on sait, ça passera pas, c'est contraire aux droits fondamentaux. » Donc, en fait, quand on dit ça, on dit... Moi, je suis députée, j'ai la souveraineté populaire. Saisissez le juge constitutionnel, qu'il nous censure au nom des droits fondamentaux. On joue, on revient à ce qui s'est passé au début du XXe siècle. Et ça n'a pas loupé. Le Conseil constitutionnel, bien sûr, a censuré. Il y en a qui critiquent parce que le Conseil constitutionnel a censuré en disant il y a 40 articles qui n'ont pas été soumis au Sénat, donc vice de procédure. Là, ils disent « Ah, mais il aurait dû dire que le fond du droit, c'était pas bien. » Non. Parce que c'est très important, la procédure. Parce que si une des deux chambres n'a pas pu statuer, le travail n'a pas été fait. Surtout, ils se gardent une cartouche derrière pour pouvoir continuer à censurer. Mais qu'est-ce qu'on a vu arriver ? Alors, lisez le Figaro, c'est fantastique. Vous pouvez l'avoir... Enfin, moi, j'ai sur des applis gratuitement avec des abonnements Internet. Toutes les semaines... Pendant 2 mois après la décision du Conseil constitutionnel, il y avait un article qui disait « Gouvernement des juges, pas de légitimité du Conseil constitutionnel. » En fait, on va commencer à demander à ce que le Conseil constitutionnel ne fasse plus son travail, tout comme on essaye de sortir de la Convention européenne des droits de l'homme, comme Darmanin nous dit qu'il n'en a rien à faire, il ne l'applique pas, et comme déjà parfois on ne l'applique pas. Donc, ce qui est en train de se jouer en ce moment, c'est la sortie de l'état de droit. Et dans les facultés, moi quand j'ai fini la fac il y a 20 ans, les droits fondamentaux, c'était en haut de la pyramide des normes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas dans toutes les facultés. Le débat est déjà là, et il est bien là, et bien ancré. Donc au moment de... Dans le fond du droit, on voit que Renaissance rejoint l'extrême droite. Sur le choc des savoirs, je vous invite à regarder la question de qu'est-ce qui est prôné dans le choc des savoirs et qu'est-ce qui était dans le programme, de Marine Le Pen. Je ne suis pas allée le voir, mais en ayant discuté avec des gens qui avaient travaillé sur ce texte, ils disent mais la logique en fait de la mise en concurrence des enfants, mais qui était là déjà avec Parcoursup, avec AFLNet, avec Bas-Élèves, cette logique-là, elle est aussi dans la logique du RN. Je vous rappellerai, si vous n'êtes pas au courant, que Bas-Élèves donc met en place en fait le fichage des enfants. Et au moment où il y a eu Bas-Élèves, à peu près, il y a eu un double mouvement. Il y a eu chez les enfants en maternelle et ensuite au niveau de la fac, on a transformé les enseignements en savoir, savoir-faire, savoir-être. Moi, j'ai une licence de droit et j'ai un bac plus 5 en droit. Et bien maintenant, les jeunes, ils ont 300 crédits européens qui s'appellent une licence ou 500 crédits européens. Et ces crédits européens, c'est savoir, on va dire en droit constitutionnel, savoir-faire en droit constitutionnel appliqué et savoir-être en pratique de terrain du droit constitutionnel. Et en fait, tout leur savoir se décompose en savoir, savoir-faire, savoir-être. Et au niveau européen, il y a les mêmes critères. Ce qui permet d'avoir des CV européens pour comparer les travailleurs européens sur des mêmes bases de critères. Mais il n'y a pas que ça. Les conventions collectives étaient fondées sur les diplômes. À diplôme égal, salaire égal. Aujourd'hui, vous avez des crédits européens. Et dans les crédits européens, il y en a qui ne vont pas durer parce que votre savoir-faire, par exemple, en anglais, il va s'épuiser avec le temps, il faut le repasser. Et votre savoir-être, il est pondéré par l'employeur. Quand vous embauchez une femme de ménage, elle a un savoir, savoir-faire, savoir-être pondéré par l'employeur qui va moduler en fait son salaire en fonction. Donc en fait, toutes les garanties collectives ont sauté pour fragmenter en fait la société et créer une société de concurrence qui permet en fait d'isoler les personnes. Et donc cette logique-là, elle est aussi à l'œuvre au niveau de l'éducation. Je vous invite à regarder ce qui se passe au niveau du choc des savoirs. Mais donc, on a des exemples de lois où vraiment, sur le fond, les députés de Renaissance vont rejoindre complètement le Rassemblement national. Mais après, on a la pratique. Je vais vous donner la pratique de Béziers. Et vous allez voir en quoi l'atteinte aux droits fondamentaux atteint aussi la structure et les institutions. Et je parlerai à la fin de la loi sécurité globale, où là, on a eu aussi une atteinte à nos institutions qui fait qu'aujourd'hui, on est sur une grosse problématique sur la séparation des pouvoirs. Je vous parlais de Béziers. En fait, je vous parlais des contentieux des crèches de nativité. Alors, ce contentieux est fantastique parce que moi, j'ai les journalistes qui m'appellent à la période de Noël. C'est le marronnier, vous savez, c'est cet article de presse qui revient, comme les feuilles tous les ans qui tombent. Et donc, finalement, avoir une crèche... C'est le bon sens près de chez vous. Hein. C'est pas oublier que c'est quand même un slogan publicitaire. Il faut se méfier. Ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Et donc, en fait, pourquoi on embête Ménard avec ses crèches de nativité? Ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont commencé à mettre les crèches, ça a été une offensive de l'extrême droite à peu près partout en 2014. Et ils les ont pas mis nulle part. C'est pas une crèche qui est sur un parvis d'une église où il y aurait le logo de la ville à côté. Non, non, c'est dans le hall de l'hôtel de ville, là où vous devez passer pour aller chercher votre acte de naissance, là où vous devez aller passer pour aller faire tous les actes que vous avez à faire, en fait, avec votre collectivité. Ce qui veut dire que la question de la neutralité du service public, c'est-à-dire le service public, il ne dit pas de quelle religion il est, parce que l'usager, il pourrait se sentir discriminé, il pourrait penser que si lui, il n'est pas catholique, on ne va pas lui filer mon acte de naissance. Je grossis, mais c'est l'idée. Donc, en fait, il n'y a pas à avoir de crèches dans les halls d'hôtels de ville, sauf exceptions, circonstances locales, coutumes locales. En gros, vous habitez dans un tout petit bled où le curé a filé le presbytère parce que finalement, il n'y avait plus de bâtiment pour faire la mairie et que... il y a toujours eu la crèche de nativité dans le presbytère et donc on le fait toujours là parce que depuis le XVIIIe siècle, c'est là. Bon, ben, vous n'allez pas aller embêter les gens, ça s'est fait comme ça, c'est l'histoire locale, ok. Mais c'est extrêmement rare. Et donc... Ménard a fait sa crèche en 2014. Et on attaque. Et le tribunal administratif de Montpellier nous dit « Ah ben non, hein, vous n'êtes pas recevable à la Ligue des droits de l'homme. Hein. » En off, parce que je vois des fois les magistrats en off, il dit « Mais pourquoi ça vous avez attaqué? Vous n'êtes pas musulman? Ça ne vous pose pas de problème ?»«
Ah toi, t'es magistrat. Oh, ça fait mal hein. !»
Voilà. Donc bon, on continue. Donc ils nous disent « Vous n'êtes même pas recevable à agir. Vous n'avez même pas là. Vous n'avez même pas capacité à agir en justice. Bon, c'est pas comme si on est là depuis 1898 et qu'on a fait plus de jurisprudence. Enfin bon, voilà. Et on va à la cour d'appel. Et là, la cour d'appel, elle dit non, mais c'est pas possible. C'est une crèche de nativité catholique, clairement. Elle est assumée comme telle. Le journal municipal l'assume aussi comme telle. Ce n'est pas possible. Et Ménard fait un pourvoi en cassation. Vous voyez, on est sur notre pyramide des normes, là. Vous voyez ? Donc, il prend son arrêté. On attaque au TA. Le TA nous dit non. On fait appel. La cour d'appel dit vous avez gagné. Hop, il va en cassation. Et le Conseil d'État rejette le pourvoi en cassation et donc valide le fait que sa crèche est une crèche catholique et qu'il n'a pas le droit, un, de le financer avec l'argent des contribuables, deux, de le mettre dans le hall de l'hôtel de ville. Et écoutez, c'est pas compliqué, tous les ans, il prend la même décision. En fait, il prend même pas de décision. Tous les ans, il met sa crèche. Donc au bout d'un moment, à partir de 2017, donc il l'a fait en 2015, etc., donc on attaque. 2017, on gagne en novembre, on écrit au préfet, on lui dit, voilà, monsieur le préfet, la crèche, elle est illégale, saisissez le TA. Pourquoi ? Parce que le préfet, il a un recours particulier. Le préfet, il est là pour contrôler si les collectivités territoriales elles font bien leur travail et il exerce ce qu'on appelle le contrôle de légalité. Et s'il estime que l'acte est illégal, il a un recours spécial devant le juge qui est très rapide, il n'a pas besoin de justifier de l'urgence. Et si c'est illégal, eh bien, la décision est tout de suite suspendue. Et le préfet le fait. Et Beaucaire le fait pareil. Et pareil, on va à Beaucaire, on perd au TA, puis on gagne un appel. Les juridictions administratives sont parfois sur des positions relativement fermées, ou en tout cas très protectrices des racines chrétiennes de la France. Voilà. Et puis on a Perpignan qui s'y met, hein, parce qu'à Lyon, il est élu aussi. Donc lui aussi, il veut faire sa crèche. Donc lui aussi, on gagne, et donc on obtient à ce qu'elle sorte. Et puis tous les ans, il faut qu'on saisisse le préfet. On va dire... Ben lui, il est quand même payé pour ça. Puis surtout, c'est une institution, le préfet. C'est quand même le bras armé de l'État français dans le cadre de la décentralisation et de la déconcentration qui vérifie que l'égalité est respectée. Bon, ça nous fatiguait un peu. Puis après, il y a eu un changement. C'est-à-dire qu'après, maintenant, j'attaque plus. Donc, bon. Et puis alors après, ça a carrément changé. On écrit au préfet. Réponse du préfet. Mais la crèche de nativité de la mairie de Béziers est tout à fait respectueuse de la laïcité. Allez, on va au tribunal. Et du coup, pour aller vite, on faisait la même procédure que celle du préfet, mais ça s'appelle en référé mesure utile. Donc on allait en référé mesure utile, c'est une procédure d'urgence au tribunal. On avait l'urgence. Et puis le magistrat, il respecte. Hein. Le magistrat, il est du TA. Le Conseil d'État lui a dit non, c'est une crèche. C'est écrit dans le journal, il dit que c'est catholique. C'est une crèche catholique, donc c'est non. Donc quand même, il appliquait, donc il suspendait. Y compris, alors moi j'ai plaidé contre Ménard qui est venu et il a pris la lettre du préfet, Ménard. Et il a dit, mais regardez, le préfet il trouve que notre crèche elle est laïque, il n'y a pas de problème. Et puis pendant ce temps-là, c'est pareil, à Nîmes, on n'avait plus de déféré préfectoral. Et puis, en fait c'est bizarre parce que du coup on se dit, soit les préfets c'est vraiment, on n'avait pas percuté, c'est des rebelles en fait. Les mecs, c'est des bikers, ils ont une moto et puis ils ont un blouson à frange. Ils se rebellent tous contre le ministre de tutelle parce qu'eux, ils sont pour les crèches. Et soit il y a une consigne, et c'est qu'en Occitanie, on laisse les maires faire leurs crèches. Soit à un moment donné, il y a une cohérence de l'État, soit il n'y en a pas. C'est vrai que quand les représentants de l'État s'abstenaient, bon, vous pouvez voir, maintenant ils soutiennent l'extrême droite et ils ne font plus de déféré préfectoral. Et là où ça bascule, et là où ça fait mal, c'est quand le Conseil d'État nous dit un jour dans une décision sur Perpignan, vous ne pouvez pas faire de référé mesure utile. Il faut faire le référé suspension. Bon, d'accord. Référé suspension, il faut faire à côté un recours en annulation. C'est juste que c'est un peu plus compliqué. Il faut faire deux recours à la place d'un seul parce que le référé mesure utile est subsidiaire. OK. On fait les recours. Et là, on a un nouveau juge des référés qui avait déjà statué avant au fond en nous disant que les mesures de Ménard n'avaient pas de problème. Et alors lui, en référé, il a trouvé qu'il n'y avait plus d'urgence. Ben voilà. Ça fait juste 10 fois d'affilée que Ménard prend une décision illégale. Il viole l'autorité de la chose jugée. Et là, si le préfet n'agit pas, que nous on agit, le TA nous dit il n'y a plus d'urgence. Alors, on finira par gagner, hein, dans 2 ans. Quand, encore une fois, le Conseil d'État dira au TA, non, là c'est mal, parce que le Conseil d'État, il va tenir. Le problème, c'est que dans les territoires, on a une réalité. Quand vous avez Ménard, en fait, qui va parader dans toute la ville en disant, moi, je fais ce que je veux, bah, ça donne qu'à l'inauguration de la crèche de nativité de Béziers cette année, il y a une personne qui venait du Gard et qui a crié « Vive la laïcité !» Et puis Ménard lui a envoyé la police municipale hein, pour le contrôler, puis il a été fouillé, puis il est parti au poste. Ça veut dire, en fait, qu'on laisse les mains libres pour avoir des législations qui se développent et qui sont contraires à l'état de droit. Alors, il fait ça sur les crèches, mais il fait ça aussi... Une des premières mesures qu'il a prises, ça a été de supprimer l'accès aux garderies, enfin, au temps d'accueil périscolaire aux enfants dont les parents étaient chômeurs. En fait, la politique de l'extrême droite, elle s'attaque toujours aux droits des prolétaires. Vous pouvez le tourner comme vous voulez. C'est une logique, en fait, imparable. Il suffit de prendre les actes qu'ils font. Et alors, il y a deux autres décisions où il a refait pareil. Alors, il y en a une, elle est anecdotique. Quand j'en ai parlé à la Ligue des droits de l'homme, j'étais saisie par une dame. Et moi, les droits fondamentaux, je les sens, en fait. J'ai dit, là, il y a un loup, c'est pas possible. J'étais saisie, moi, par une dame, elle me dit, alors je sais que c'est risible, hein, mais voilà, Ménard, il impose le test génétique des chiens, et comme ça, en fait, on fiche les chiens de manière génétique, et comme ça, les crottes de chiens partout dans la ville, hein, c'est hop, on sait qui l'a fait, et comme ça, on va lui mettre un PV, etc. Alors en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'il l'avait déjà fait une fois. Et il a été annulé par le TA, confirmé par la cour d'appel. Et bien, 4 ans après, il recommence. La première fois, c'était le préfet qui était... Des préfets qui étaient avant la Macronie totale, vous voyez. Donc là, ils faisaient encore leur travail. Puis 4 ans après, il n'y a plus personne qui trouve que ça pose de problème parce qu'on s'habitue aux mesures, en fait. Mais moi, la dame qui m'a saisie, elle me l'a dit très clairement. Elle habitait au cœur du quartier qui est déterminé, où il faut toujours avoir la fiche de contrôle comme quoi son chien, il s'est bien fait tester génétiquement. Elle dit, mais moi, je vais être contrôlée tout le temps avec mon chien. Yuki, c'est moi. Voilà. Elle dit, mais moi, j'ai pas envie d'avoir de la police qui parade deux par deux, trois par trois, six par six, devant ma porte, pour me demander les papiers de mon chien. Mais alors, c'est plus fin que ça. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, ils sont forts. En plus, Ménard s'est ouvert une porte dans le fichier national des animaux carnivores. C'est un fichier national qui répertorie tous les chiens. Et lui, il dit, mon fichage génétique, je vais l'introduire dans le fichier national. Alors déjà, vu comment ça se passe en ce moment, il ne faudrait pas trop qu'il donne d'idées à Darmanin, parce que sinon, on va tous devoir afficher génétiquement notre chien. Donc ça va. Mais surtout que l'accès au fichier est autorisé s'il y a une disposition légale ou réglementaire qui le permet. Donc lui, il prend un arrêté. Un arrêté, dans la pyramide de Kelsen, c'est un niveau d'arrêt, c'est une disposition réglementaire. Donc il s'est créé une disposition réglementaire qui l'autorise d'accéder dans un fichier national. Et ça, dans 2-3 ans, il n'y a qu'à le faire pour le TAJ. Il y a juste 19 millions de personnes. Comme ça, s'il y en a un peu sur Béziers, il pourra peut-être se renseigner. Des gens qui auraient été contrôlés, dont la police a pensé qu'il était quand même légitime de la mettre dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires. Et d'ailleurs, moi, que je vois les refus de titre de séjour, le nombre de fois où... connu défavorablement des services de police, signalement au traitement des antécédents judiciaires. Alors on conclut. Le Conseil d'État a dit que c'était pas possible de retenir les éléments. Pip, 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 pip. Hein, ça sert plus à grand chose, hein, parce que si vous voulez, on l'écrit, on le plaide, hein, on y croit. C'est juste que le tribunal il n'y croit pas, quoi. Donc voilà. Donc en fait, la logique de l'extrême droite, elle est mise en œuvre avec le regard bienveillant du gouvernement actuel. Et cette porte d'entrée là qu'il a fait avec le fichier génétique, il peut le faire avec une autre. Et ce que ça met en exergue, ce qu'on constate maintenant, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, notre État de droit n'a pas été pensé pour ça. C'est-à-dire que l'État de droit, c'est comme s'il il impliquait ou il imposait une compliance. C'est-à-dire que naturellement, les différentes structures de l'État qui ressortent du pouvoir exécutif doivent respecter les décisions de justice. Il y avait à un moment donné dans le code monétaire et financier une amende de 300 balles hein, si le maire d'une ville reprenait une décision illégale. Bon, ils l'ont enlevé. Il n'y a plus rien. Si le préfet ne fait rien, il n'y a plus rien. Et ça, c'est grave parce que... Enfin, c'est grave. C'est une grosse lacune de la Constitution de 58. Qu'on n'avait pas vu, mais parce que ça faisait très longtemps que la logique de l'extrême droite, on ne l'avait plus. Et le deuxième problème que ça pose, le fait que la logique de l'extrême droite, on ne l'avait plus, parce qu'on a diabolisé le Front National, bon, très bien. Le problème, c'est que maintenant, en fait, les idées du Front National, les gens ne sont plus capables de les repérer. Hein, la préférence nationale, le fait que, on enferme les plus pauvres... le couvre-feu, supprimer les droits sociaux pour les chômeurs. Et donc, il y a vraiment un glissement qui s'opère. Et ça passe bien sûr par Renaissance et la droite libérale. Et ça va jusqu'au centre et jusqu'à une partie des socialistes. Ce qui fait un peu de monde. Donc là, on a cette problématique. Et ce qui se passe, c'est qu'au-delà du fait que ce n'ait pas été prévu dans nos institutions... C'est la mise en pratique concrète de l'idéologie de l'extrême droite, pour deux points. La première, c'est que moi, je trouve légitime qu'il y ait des gens qui pensent, qui puissent penser, c'est leur liberté, qu'il faille que dans la Constitution, on assume les racines chrétiennes de la France et qu'on ait le droit de mettre des crèches. Il y a des gens qui ont le droit, enfin, les gens ont le droit de le penser. Simplement, s'ils veulent que ça se passe... Il faut réformer la Constitution, faire une assemblée constituante et le voter à la majorité des deux tiers. Et comme ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont minoritaires, ils passent en force. Et donc, Il dit, mais moi, je suis le maire, je fais ce que je veux. Et donc, il réitère et il nous met face à nos lacunes dans notre système institutionnel. Et le problème, c'est qu'on ne réagit pas. Et quand il viole l'autorité de la chose jugée, quand il reprend tout le temps les mêmes décisions, il oppose à l'état de droit la vision d'un état structuré sur l'autorité du chef. Et cette vision de l'état de droit structuré sur l'autorité du chef, qui sait, pour tout le monde, donc c'est comme sur le couvre-feu, j'en ai pas parlé encore, sinon, mais comme pour le couvre-feu, sur le couvre-feu à Béziers, Ménard, ce qu'il a dit, c'est je fais un couvre-feu pour les enfants mineurs de moins de 13 ans dans les quartiers populaires. Alors, tout le monde dit, bah oui, c'est normal. Pourquoi les gens laissent traîner leurs enfants mineurs de moins de 3 ans entre 11h du soir et 6h du matin dans les rues ? Ben non, en fait, ils ne le font pas. Il n'y a pas de mineurs de... Enfin, il n'y en a pas. Alors peut-être en plein été, au mois d'août, quand il fait 40 degrés dans les maisons parce qu'il a fait 45 toute la journée et que, bon, ben voilà, hein, les gens, ils traînent un peu dehors et que tu vas chez le voisin et qu'il y avait l'anniversaire de Jean Michemuche et que je suis allé jouer, hein ? Voilà. Mais Ménard, lui, ce qu'il dit, c'est... Alors déjà... Il n'y a pas de délinquance de mineurs de moins de 13 ans entre 11h du soir et 6h du matin à Béziers. Il n'y en a pas. Déjà, voilà, faut vraiment remettre les choses à plat. Et Merck, ce qu'il dit, c'est il y a beaucoup de tourisme. Le tourisme, c'est l'été. Notre arrêté pour couvre-feu mineur, c'est pendant la période estivale. Parce que vu qu'il y a beaucoup de touristes, ça augmente mécaniquement la délinquance. Que dans les quartiers prioritaires de la ville, on a... un taux au niveau national plus important de délinquance sur certains délits et que les parents, ils ne savent pas contrôler leurs enfants. Et ça, c'est un tort. Et comme ils ne savent pas contrôler leurs enfants, le maire de Béziers est là pour les contrôler pour eux. Dans les quartiers populaires. Parce que la rue d'à côté, où ce n'est pas un immeuble social, là, il n'y a pas de problème. Hein, la famille l'élève bien. Donc, on enferme les enfants de prolétaires. Les enfants des quartiers populaires. Et c'est même pas dire, ouais, mais c'est des quartiers où il y a des Rebeux, des Renois. Des... Non, non. C'est les pauvres. Alors, si en plus, ils sont d'origine étrangère, c'est, j'allais dire, ils cochent deux croix, hein, vous voyez. Mais la logique de l'extrême droite, elle est là. Et là aussi, le Conseil d'État, c'était sur ce point-là, en 2014, Ménard avait déjà pris cette décision. Et déjà, il n'y avait pas d'enfants mineurs délinquants dans la rue entre 11h du soir et 6h du matin. Et le Conseil d'État, qui est en haut de la pyramide des normes, il avait dit « Vous ne pouvez pas prendre cette mesure parce qu'il n'y a pas de problème. S'il y avait un problème, le maire, il peut toujours essayer de la sécurité, salubrité, tranquillité. Le maire est compétent pour faire ça. Mais s'il n'y a pas de problème particulier, il y a juste la loi. Si vous trouvez dans l'année deux gamins mineurs dans la rue, vous les prenez, vous les ramenez, et puis vous lancez une enquête sociale au cas où il y a des maltraitances à la maison, ou alors peut-être qu'il y a eu un problème particulier, ou alors il n'y a rien eu, et vous le ramenez chez lui parce qu'il s'est perdu dans la ville. Mais la loi existe. Vous pouvez saisir le juge des enfants qui va faire une enquête. L'aide sociale à l'enfance peut envoyer des travailleurs sociaux pour aider la famille. On aide les enfants. Et la loi, elle existe. Ménard, il arrive à nous faire croire qu'il n'y a pas de loi, que c'est Beyrouth dans les rues, que les pauvres ne s'occupent pas de leurs gamins. Et il prend des décisions. Et là encore, donc le Conseil d'État avait dit « il ne se passe rien, donc vous n'avez pas le droit ». Et c'est marrant parce que déjà le tribunal administratif de Montpellier avait dit, quand on avait fait le recours, « ah ben non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté ». D'ailleurs, il ne crée même pas du droit, il rappelle juste ce qui devrait être. Ah là là, vous dites « non, mais je rêve ». Donc on perd à la cour d'appel, hein, parce que là, la cour d'appel, elle disait quand même, c'est vrai que, porosité, vous voyez, c'est vrai quand même que tous ces enfants qui traînent dans les rues, mais il n'y a pas d'enfants dans les rues, il n'y a pas de chiffres, il n'y a rien. C'est incroyable. Donc le Conseil d'État tient, et là, Ménard reprend la même décision. Et le tribunal administratif de Montpellier, je vous le donne dans le mille, référé de subvention, il nous dit « Ah mais non, il ne faut pas que les enfants ils traînent dans la rue. Non, mais il n'y a pas de chiffres. » Et le même problème qu'il y a 4 ans. Et le magistrat sait très bien qu'il n'applique pas les critères du Conseil d'État. Ben, je veux dire, c'est pas compliqué. Je veux dire, grammaticalement, il y a des mots qui sont mis ensemble et qui forment une phrase avec un sens. Hein. Je veux dire, il faut justifier de circonstances exceptionnelles particulières qui prouvent que les mineurs de moins de 13 ans dans les lieux décrits sont soumis à des risques de délinquance. Et le juge d'ITA écrit « Le maire de Béziers a caractérisé un trouble à l'ordre public sur les enfants mineurs. » C'est pas les mêmes mots, c'est pas les mêmes phrases, ça n'a pas le même sens. Alors, soit... Alors, pour rester poli, enfin, faut bien essayer de commenter quand même ce qui se passe. Soit ils rentrent dans un dialogue juridictionnel avec le Conseil d'État en essayant d'infléchir la jurisprudence du Conseil d'État. Alors, on espère que la porosité ne montera pas jusqu'en haut. Soit on peut dire que le tribunal administratif de Montpellier développe une vision autonome des droits fondamentaux, autonome de celle du Conseil d'État. Mais c'est un peu inquiétant, parce que si actuellement on n'a plus le recours au juge administratif en urgence, on pourra gagner dans 2 ans. Et moi, la question que je me pose, c'est comment ça va se passer cet été dans les quartiers populaires avec des gamins qui vont être dans des immeubles où déjà il y a zéro isolation, enfin, il fait chaud, enfin, on a des étés de plus en plus chauds, on a tapé des canicules comme à peu près tout, enfin, comme tous les ans depuis quelques années. Il va faire 45 degrés, ils vont être où ? Alors, ils peuvent être dehors avec un majeur, mais ça veut dire en fait que la police va passer pour contrôler. Ça veut dire que cet été, comme le juge a estimé qu'il n'y avait pas de souci, sauf à ce que le Conseil d'État audience en urgence, et chaque fois que le Conseil d'État audience en urgence, ça veut dire que lui-même déroge aux règles habituelles pour s'adapter à la violation de l'état de droit par l'extrême droite. Et il l'a déjà fait sur le burkini au Théâtre de Nice, parce que Mandelieu et Lanapoule, encore une fois, avaient interdit le burkini sur les plages. On se le dise, hein, personne n'est jamais allé emmerder les femmes gitanes qui sont toujours baignées, habillées. Et là, c'est un burkini, donc c'est plus possible. Donc il a repris cette décision et le tribunal administratif de Nice a rejeté sans audience le référé. Donc il n'y avait pas de possibilité, pourvoi, normalement c'est 1 an. On a fait un pourvoi, il a été audiencé en 15 jours. C'est bien, hein, mais c'est pas du tout la procédure habituelle. Donc on voit déjà l'institution judiciaire s'adapter à la violation de nos institutions par l'extrême droite. Et donc... on en arrive là, effectivement, à ce qu'actuellement, sur une partie du territoire, on n'a plus de recours contre des décisions où, finalement, cette vision vraiment du RN, hein, de la segmentation de la société, de la domination, se met en place. Et il n'y a pas de réaction. Le préfet ne réagit pas. Il pourrait faire le contrôle des actes de légalité. Il ne le fait plus. Alors, c'est problématique parce que Ménard, là, demande un transfert de plus de compétences pour pouvoir fermer les petits commerces qui ne répondraient pas aux critères d'hygiène et de sécurité, et notamment tous ces kebabs. Voilà. Donc, en fait, la demande de ce transfert de compétences, elle va plaire à l'État, notamment à l'État libéral, parce que ça veut dire moins de frais de fonctionnement, moins de fonctionnaires, moins de charges. Et ce qui est un peu problématique, c'est que cette idéologie-là, elle s'est appliquée aussi sur la sécurité. Et donc, ce sera le dernier point de mon intervention, comme ça, après, on va faire un débat, sinon ça va être un peu long. C'est la loi sécurité globale qui est passée en 2021. Alors, la loi sécurité globale, c'est un très, très bon exemple de la dégradation, en fait, d'une fonction régalienne qui est privatisée. La justice, la police, fonction régalienne, c'est battre la monnaie, la fiscalité, la justice... la police, l'armée, le contrôle du territoire. C'est le cœur, quand même, de la fonction régalienne. En 2019, Édouard Philippe nomme un parlementaire pour faire un rapport au gouvernement. Dans cette situation, le Conseil constitutionnel a dit que le parlementaire, s'il fait plus que 6 mois de mission, il doit démissionner de son mandat de parlementaire et que c'est son suppléant qui doit monter. Et s'il ne fait que 6 mois de mission, pendant ce temps-là, c'est un travail pour le gouvernement. Et le rapport qui en est issu est un rapport pour le gouvernement. Et Édouard Philippe a demandé à Flo Vergue et une députée de faire un rapport sur le continuum de sécurité pour voir comment on pourrait faire un continuum, auditer tous les services de gendarmerie, police, etc., pour faire une chaîne de sécurité. Faire un continuum de sécurité pour que tout le monde travaille ensemble et qu'on délègue aussi un peu à la police municipale et aux agences de sécurité privées. La sécurité. Les drones, tout ça. Bon, d'accord. Alors Flaubert, c'est bien parce que là, il s'est dit, ah ben, comme moi, je suis un ancien de la maison, alors je ne sais plus exactement si tu es gendarme, etc. Il fait, ben moi, je vais monter une boîte qui va faire du conseil pour former les gens en sécurité. Et puis une fois qu'il a fait ses 6 mois, il s'est dit, tiens, je vais proposer une proposition de loi. Alors, pour ceux qui ne savent pas, une proposition de loi, c'est issu du Parlement. Un projet de loi, c'est issu du gouvernement. La différence, c'est que le projet de loi, il faut une évaluation fiscale, enfin une évaluation financière et un avis du Conseil d'État. La proposition de loi, c'est issu du Parlement, donc c'est le travail des parlementaires. Donc en fait, il n'y a pas besoin de tout ça. Et donc, ben, je ne sais pas hein, s'ils ont discuté avec Édouard Philippe ou si c'est lui venu tout seul. Il fait, mais moi, pendant 6 mois, j'ai travaillé. Alors le rapport que j'ai fait pour le gouvernement, ben, je vais dire que je l'ai fait en tant que parlementaire. Et donc, je vais faire une proposition de loi. Comme ça, il n'y a pas de contrôle dessus. Et donc, il a fait une proposition de loi. Et dans sa proposition de loi, il a proposé qu'il était impératif de faire des formations pour la sécurité. Ça tombait bien, il venait de faire une agence pour faire de la formation en sécurité. Vachement bien. Voilà. Alors ça, on l'a dit au Conseil constitutionnel. On dit quand même, c'est pas super. Mais le Conseil constitutionnel, il a dit que c'était pas très grave ce qu'on disait. Il n'a pas répondu à nos écritures. Voilà. Donc, toujours est-il qu'il propose un texte de loi. Et alors, il faut lire le premier rapport qu'ils ont fait. C'est fantastique. Je crois que la phrase qui m'a le plus choquée, et je pense que je m'en souviendrai toute ma vie, c'est cette affirmation, le citoyen est le premier maillon de la chaîne sécuritaire. Ouh ! Eh, avec ça, on est ravis. Tout un programme. Et c'est là où ils ont sorti les drones pour nous surveiller. Et donc, ce texte de loi, je vous l'ai décrit, il a confondu la séparation des pouvoirs en France, donc qui est un des piliers d'un système démocratique et d'état de droit. Ce n'est pas une séparation rigide. Aux États-Unis, vous voyez, en ce moment, il se passe beaucoup de choses, mais ils ont des contre-pouvoirs très forts. Hein, c'est-à-dire que le président peut avoir une motion de censure, il est responsable, il peut être renversé. Il y a des pouvoirs, des contre-pouvoirs qui sont forts, qui sont garantis avec des procédures. Nous, en fait, on n'a pas ça. On a une espèce de régime semi-présidentiel. Alors, normalement, comme il y avait des élections tous les 7 ans, la couleur politique, c'était la même, la cohabitation. Puis finalement, on est passé à 5 ans, on a renforcé le pouvoir du président. Et puis finalement, on a fait un régime de plus en plus présidentiel. Mais il y a quelque chose qui tient quand même, c'est que normalement, la loi, elle est proposée soit par le gouvernement avec un contrôle, soit par le Parlement. Et là, c'est le plein travail des parlementaires. Alors, on a déjà beaucoup d'ordonnances. Vous savez, on dit le gouvernement, il peut faire des ordonnances. Bon, ça, déjà, on leur a filé plein de pouvoirs. Donc le gouvernement, il fait des ordonnances, il légifère par ordonnance. Mais là, au moment de la loi sécurité globale, on a vraiment eu, si vous voulez, une commande du gouvernement qui est passée comme si elle était issue des parlementaires. Et donc, sans aucune des garanties qu'on a mises dans la Constitution pour dire on sépare les pouvoirs. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Alors qu'on a bien argumenté, on a bien exposé, on a bien expliqué. Dedans, il y avait des trucs très intéressants. Par exemple, le fait d'avoir expérimenté, la police des transports. C'est une loi expérimentale. Alors, avant de la passer définitivement, on va faire le bilan. Alors, le bilan, c'était un article d'une demi-page dans La vie du train et du rail. OK ? Il n'y avait quasiment aucune donnée. Il y a un député qui s'est battu là-dessus, mais c'est validé, c'est passé direct. Il n'y a pas eu de problème. Et dans la loi sécurité globale, eh bien, on a dit qu'on allait faire des contrats et on va déléguer certaines compétences de la police nationale au niveau de la police locale. Et puis on a dit, les agences de sécurité privée, elles peuvent patrouiller deux par deux autour d'un bâtiment où vous organisez quelque chose. Et puis elles ont droit d'ailleurs d'arrêter les gens qui passent. Et puis elles ont même droit de les fouiller, dites donc. C'est quand même bien, hein ? Voilà. Donc ça veut dire qu'on peut payer en fait des prestataires privés pour venir faire des interventions qui ressortent normalement du pouvoir de police. Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et je l'ai affirmé haut et fort devant le commissariat de Montpellier, où on avait encore 3000 manifestants avec beaucoup de jeunes qui ont tendance à crier « ACAM ». Et j'ai rappelé que la Constitution nous dit que les forces de l'ordre sont là pour défendre nos libertés et nos droits démocratiques. Elles sont là au bénéfice de tous et pas de ceux à qui elles ont été confiées. Et que en Colombie, au moment où on faisait la journée de l'avocat menacé, entre 2002 et 2012, il y a eu 200 avocats qui ont été tués par les mafias. Et en même temps, vous aviez des magistrats qui étaient abattus. Et en même temps, vous aviez des journalistes. Et que, en fait, s'il n'y a pas des forces de l'ordre qui sont entre les mains des citoyens par le biais de leur représentation, c'est les mafias. Et que, il vaut quand même mieux que ce soit les forces de l'ordre. Mais pour le coup, les forces de l'ordre, service public. Parce que là, des agences de sécurité privées qui ont ce pouvoir-là, c'est quand même Alors, ça fait quand même beaucoup. Donc, quand ils ont supprimé les formations, donc Flauberg, il n'a pas pu rentabiliser sa société, c'est un peu dommage. Mais ce n'est pas le gros du problème. Cette loi, en fait, a renforcé énormément le contrôle, et notamment par les drones. Donc, on a mis en place, on a gagné, hein, on a réussi à faire censurer certains éléments, mais sur le fond, ils sont revenus, ils ont mis quelques garanties, et donc, ils ont autorisé les drones. Mais vous avez aussi les chiens robots, et puis vous avez eu, et puis là avec les JO, on va voir la mise en place en fait de la reconnaissance faciale. Et donc on a tous ces outils techniques qui vont engranger énormément de données. Et le plan, et le plan qui est en train de se réaliser, c'est de filmer et de pouvoir contrôler tous les nœuds névralgiques de communication. Donc c'est les aéroports. Les croisements autoroutes, les gares. Et là, à Montpellier, donc le maire de Montpellier nous avait dit à la Ligue des droits de l'homme, si jamais je suis élu, on aura un comité éthique et pour mettre des caméras, on prendra le temps de réfléchir. Bon, depuis qu'il est là, ça a été multiplié par 3, le comité éthique. C'est pas. Il est parti se baigner à la plage, sans burkini, avec un burkini, je ne sais pas. Donc il n'y en a pas. Et toutes les villes autour de Montpellier se dotent sur les fonds, en plus de la prévention contre la délinquance, hein, donc ils sont censés aider les gamins pour prévenir la délinquance. En fait, ça sert à financer les caméras de vidéosurveillance avec des agences dont une partie vont faire les études, on va dire, de faisabilité et dire, mais oui, on peut le faire chez vous pour pas trop cher. Et à côté, elles vont vendre des produits, c'est magnifique. Et puis, ce qui est super, c'est qu'ils disent, on va équiper toutes les routes. Donc, en fait, on va plus pouvoir circuler. Et ça va arriver ici aussi. A priori, le but, c'est de faire tout le réseau des routes nationales et toutes les autoroutes avec des caméras pour pouvoir, en fait, suivre toute la population sur les grands axes. Et à côté... Mais ça, c'est gratuit. Hein. C'est bien parce que c'est vous. Et c'est bien parce que, monsieur le maire, on vous aime bien. Et gratuitement, on va vous équiper la place du village, la mairie et les écoles. Ouh, magnifique. Et donc, il y a tout ça qui se développe. Et on voit, par exemple, on a Saint-Martin-de-Londres, 3000 habitants. Et les mecs, ils vont avoir plus de caméras au prorata de la population que Nice. Il ne se passe rien à Saint-Martin-de-Londres. Il ne se passe rien. Même Grabels. Avec Grabel, avec Revol, qui a fini. Alors, on a fait une intervention avec Technopolis là-dessus. Et les mecs du conseil municipal, qui avaient voté le truc. Hein, ils découvraient, quoi. Les gars. Alors, avec en plus une dimension, alors deux dimensions, en plus du sécuritaire, la dimension sociologique. On est allé voir des gamins, c'est Patrick Fornos qui est dans le collectif. Il allait voir des gamins là, qui traînaient sur un banc là, sur la place, hein, 13-14 ans. Il m'a dit, s'il y a des caméras... Hein. Et les gamins, ils ont fait, on ne fera plus les conneries. Hein. Et alors, comment ça se fait si on ne peut plus faire les conneries qu'on doit faire à 13-14 ans sur la place du village avec l'oncle, le cousin, le voisin qui te dit, vas-y, c'est too much. Voilà, ou vas-y, ramasser le truc. Si ça, on ne peut pas le faire, comment on grandit? C'est quand même une question. Et puis, il y a une autre question qui, à mon avis, est une vraie question d'avenir, c'est le coût énergétique, écologique. C'est-à-dire qu'on installe des caméras, mais il y aura toujours un endroit où il n'y aura pas de caméras, et puis on aura peur, du coup. Alors, on va installer des caméras. Là, ils sont à 50 caméras à Saint-Martin-de-Londres. Donc, il y a l'entretien, mais surtout, il y a le fonctionnement, l'énergie, le stockage de données. Donc, en fait... Tout ça participe d'une logique en fait sécuritaire. Alors c'est vrai qu'il vient des attentats du 11 septembre et de la bascule qu'il y a. Il y a beaucoup de choses qui se jouent. Hein. En introduction, je parlais en fait de l'impérialisme qu'on a eu après la révolution industrielle et où on a dominé le monde. Et puis le retour du bâton, il fait mal. Et donc, on a toujours envie de vivre en sécurité. Donc il y a cette société sécuritaire qui vient, qui monte. On a des aspirations légitimes, hein, d'autres populations qui disent « Vous nous avez imposé vos droits fondamentaux. On a nos propres... Il faut qu'on regarde nos propres problèmes. » Je dis à chaque fois, parce que moi, je cite la Déclaration des droits de l'homme du citoyen. Parce qu'on l'a fait pour nous. Quand vous prenez la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est vachement bien. Hein. Ça a été signé par tout le monde en 1948. Et quand vous écoutez, alors je l'ai peut-être mal compris, mais je ne pense pas, il y a un cours au Collège de France de Supio qui s'appelle « Du gouvernement par les lois, la gouvernance par les nombres », qui s'écoute en podcast sur Radio France Culture. Je vous invite à l'écouter, c'est très riche. J'avais espéré sur Montpellier faire des écoutes collectives type tous les 15 jours ou une fois par mois avec débrief derrière. Moi, quand j'écoute une heure, je réfléchis trois heures après. C'est super dense, super intéressant. Et à un moment donné, il explique que nous, en Europe, on est des pays de droit. Donc, il y a en Grèce, il y a la loi des... Enfin, toutes nos sociétés, que ce soit la Grèce, Rome, etc., ont été fondées sur les lois. Donc, on a des lois qui protègent nos droits. Donc, ce sont des droits subjectifs. Et puis, on a le droit avec un grand D. Donc, c'est un état de droit, etc. Donc, c'est notre référence. En fait, on a une référence, on a un étalon. Et en fonction de cette référence, en fait, on va se positionner pour dire j'ai le droit de faire ça ou pas. Et si ce que je fais, ça ne va pas, ben, je vais être puni. Voilà. Bon. Et puis, on fonctionne comme ça. Et si tu veux, il nous dit, mais en fait, en Asie, mais pas que au Burkina Faso, c'est des sociétés de rituels. C'est-à-dire que pour que la société fonctionne, ben, faut respecter le rituel, le moule, en fait, un peu dans lequel on est rentré. Donc, voilà, si vous êtes femme, truc machin, c'est comme ça. En fait, c'est un peu une assignation comme ça qui est faite, mais la société fonctionne comme ça. La société ne fonctionne pas en référence à des droits. En fait, ce n'est pas la même manière de penser. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils ont signé en 1948 quand ils ont dit « Tous les hommes laissent et demeurent libres et égaux en droit » ? Pas du tout. Ça n'a pas de valeur pour eux. Donc en fait, tous ces systèmes de domination qui sont mis... par exemple, il y avait une conférence sur l'intelligence artificielle ultra intéressante à Montpellier il y a un an, bientôt. Et dans cette conférence, en fait, on a un gars qui est arrivé, l'intelligence artificielle, c'est super. Et on développe, et du coup, il y a des pays, alors il nous parlait de, je ne sais plus, c'était le Sénégal, enfin, certains pays d'Afrique, il nous donnait la liste, et on a augmenté de 20% la signature de contrat. Et c'était juste des pays, en fait, où c'est un pays à structuration orale. Pourquoi on va leur imposer de mettre un écrit ? Pourquoi on va encore continuer à détruire leur structure ? Et en leur imposant notre manière de penser. Donc le retour de bâton de ça, c'est qu'effectivement, il y a des moments où ça se passe, ça peut mal se passer. On a la crise climatique qui arrive. D'ailleurs là, tous les migrants qui arrivent, on va avoir toute cette migration climatique qu'on ne veut pas penser. Hein, je veux dire, bien sûr, c'est dans la loi dont je vous parlais là, de janvier, il n'y a rien sur les réfugiés climatiques. Donc en fait, on va aller sur une société où ça va être un peu compliqué, et nous, on va vouloir plus de sécurité. Et c'est là où, à un moment donné, il faut casser la logique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à sortir de cette espèce de moule où on nous fragmente, on nous divise, on nous individualise. Moi, je ne suis pas un individu. Moi, je suis une personne. Je vis dans un cadre collectif. Je ne peux pas vivre comme un individu tout seul. On n'est rien. Et donc, il faut qu'on arrive à sortir de ça. Et il y a des moments où, normalement, ça devrait nous venir. Moi, par exemple, je ne veux pas de sécurité, moi. Moi, je veux de la tranquillité. Moi, quand je rentre chez moi, en fait, je ne veux pas des caméras. Je veux dire bonjour à mes voisins. Alors, vous, ici, normalement, vous en êtes encore à dire bonjour à vos voisins. En Montpellier, dans la rue, les gens, vous dites bonjour, ils vous répondent, ils sont un peu surpris. Au bout d'un moment, ils prennent le pli. Dans cette rue, on dit bonjour aux gens. Voilà, c'est une manière d'être et une fragmentation. Et il faut absolument qu'on prenne le contre-pied et qu'on arrive à sortir de cet enfermement mental dans lequel, en fait, l'extrême droite et le libéralisme nous poussent. Alors, il y a des limites. Il y a des différences encore. Alors, on l'a vu tout à l'heure, pas beaucoup, mais vous voyez, par exemple, moi, je vais prendre Wauquiez. Bon, je ne suis pas fan de Wauquiez. Wauquiez, il a fait une crèche de nativité. Il a fait une crèche de nativité dans le hall de la région. Et il s'est fait sanctionner. Mais il n'a pas eu la même réaction que Ménard. Lui, il a dit, je vais refaire une crèche. Parce que moi, je suis un homme politique. Alors quand même, j'ai raison. Mais il a fait 50 exposants avec le parcours des métiers d'art et les mecs, ils faisaient cuire leur santon sur place et au milieu des 150 crèches, il y en avait 5 où il y avait l'enfant Jésus le 24 au soir. Alors, il a joué le jeu. Il a créé des circonstances particulières qui faisaient que la crèche n'avait pas ce sens uniquement catholique. Et il est rentré dans la jurisprudence du Conseil d'État. Il a fait une fois parce que ça a dû lui coûter une blinde. Et après, il a arrêté. Aujourd'hui, on arrive à un moment où, je disais tout à l'heure, on a eu notre congrès national au niveau de la Ligue des droits de l'homme, et on a une résolution qu'on vous a imprimée, une résolution qui est pour une alternative démocratique, sociale et écologique. Et on essaye de poser le constat et on essaye de se dire qu'on va, on peut quand même arriver à éviter que l'extrême droite arrive au pouvoir. J'ai un peu du mal à le dire parce que je suis pas super optimiste, mais bon, on va mener le combat. Mais ce qui était quand même étrange, c'est que j'avais l'impression d'être dans un autre pays. L'extrême droite est au seuil de la porte. Cette ligne est infranchissable. Non, mais c'est bon. Hein. Les mecs, ils sont dans le salon, ils sont vautrés sur le canapé. À table, ils bouffent tout l'apéro. Ils sont plus nombreux que nous. Et limite, il y a... Moi, des amis, ils m'expliquent qu'ils ont du mal à parler. Parce que la pensée de l'extrême droite est devenue vraiment importante. Et donc, en fait, on a pas trop de choix. Enfin, si, on peut faire plusieurs trucs, mais a priori, on a plutôt le choix d'essayer, en fait, de lutter contre cette pensée. Et donc, il faut qu'on fasse... le lien entre ce que fait la droite libérale avec l'extrême droite est distingué quand même parce que, alors je ne sais pas Wauquiez exactement où il se positionne et je n'ai pas envie de faire finir un moment sur lui, mais par exemple, jusqu'où on peut avoir des bases communes avec par exemple ce qui reste de la famille gaulliste parce que toutes les luttes que nous mènerons pour maintenir le plus possible l'état de droit vont nous créer de l'espace et vont nous permettre en fait de vivre mieux et de limiter la baisse démocratique. Donc il faut qu'on les mène et il faut qu'on sorte de cet enfermement mental. Et quand je disais, et c'est pas que pour rigoler, moi je veux pas de la sécurité, je veux de la tranquillité, c'est un autre modèle de société. C'est un modèle de société où on ne va pas aller sur le tout technologique en pensant que nécessairement la technologie c'est le progrès. On va pas aller sur tout de la surveillance parce que enfermer, ce n'est pas vivre en fait. Et pour ça, ça va passer par des vraies discussions. Et je le dis d'autant plus que j'en parlais un peu, et on pourra peut-être en parler après, à Montpellier, il y a désormais toute une partie des forces de gauche, alors pas toute une partie, il y a une partie des forces de gauche, certaines forces de gauche, qui n'appliquent plus les droits fondamentaux ou qui ne sont plus capables de déceler les positions d'extrême droite. Donc, je crois que c'est Brel qui disait que l'extrême droite, c'est de la paresse intellectuelle. Donc, il va falloir qu'on se sorte les doigts des oreilles et qu'on retravaille et que surtout, on se dise les choses. Et c'est compliqué parce qu'il ne faut pas se mentir. Donc, c'est-à-dire qu'il faut réussir à exprimer et à poser les débats en disant ce qui ne va pas, ce qui fâche. Et en gardant, me semble-t-il, comme curseur... pour moi, les droits fondamentaux, tels qu'ils ont été écrits dans la Déclaration des droits de l'homme, notamment comme base, et les droits économiques et sociaux, sont les meilleurs curseurs pour essayer de vivre ensemble de manière à peu près sereine. Et donc, il faut, je pense, vraiment se retrouver et essayer de poser ça. Au niveau de la Ligue des droits de l'homme, c'est ce qu'on va essayer de faire. Et j'espère que quand on le fera, vous serez avec nous et qu'on sera nombreux autour de cette table et qu'on sera plus nombreux, en tout cas, que l'extrême droite qui actuellement truste un peu et un peu trop toutes les places. J'ai beaucoup parlé, j'espère que je n'ai pas été trop longue et peut-être que maintenant on peut débattre.
Oui, juste pour conclure, alors merci beaucoup Sophie. Maintenant, nous avons beaucoup d'éléments pour agir. Je pense qu'on est très contents de cette soirée. En tout cas, la bataille qui se joue, on a bien compris que c'était une bataille des idées, des valeurs, et que effectivement, ça va jouer beaucoup. Ce qui va jouer beaucoup, c'est notre capacité à anticiper. C'est peut-être ça qui manque le plus, en fait. C'est de rester coincé sur le quotidien. Et effectivement, peut-être qu'il faut, au lieu de donner en permanence la priorité au rétablissement de l'ordre, puisque c'est ce qui est toujours préconisé dans les lois, c'est peut-être effectivement l'important, enfin la question importante à se poser, c'est mais pourquoi le désordre en fait ? Et on a complètement occulté, je pense, depuis un moment. De se poser d'abord cette question avant de dire mais il faut rétablir l'ordre. Enfin voilà, il manque un morceau quoi en fait. C'est vrai qu'il est sûrement nécessaire d'élargir nos regards, d'y intégrer d'autres informations, d'autres réalités que celles qu'on nous assène. On l'a bien dit avec effectivement les médias. Et surtout pour qu'on puisse interroger notre imaginaire. C'est peut-être ce qui manque le plus dans cette, dans l'anticipation de ce qui va arriver, et décider en tout cas au plus juste de ce que, de la société qu'on veut demain. Enfin, ça reprend exactement ce que tu viens de dire. En tout cas, il est sûrement urgent de défendre, de se battre aujourd'hui pour éviter les écueils et les ornières sécuritaires qui sont de plus en plus profondes. En tout cas, merci beaucoup. Et pour terminer, on vous propose, pour ceux qui le souhaitent, de poursuivre cette discussion autour d'un petit pot, enfin, qu'on vous propose à l'entrée de la salle. Merci encore à vous tous d'être venus. Et puis, on va se retrousser les manches.
Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Merci beaucoup.
Thank you.